One, two, ten, shake. It's okay. That's it, man.
Bonsoir à tous, divergents et divergentes. Ne changez pas de station, vous êtes bien à l'écoute de Provoscopie. Cependant, les renards et autres belettes ont été mis au placard pour la deuxième fois dans l'année par de petites mais machiavéliques souris de laboratoire. Ce soir donc, à l'horaire habituel, commence votre Provoscopie. Nous accueillons aujourd'hui messieurs Christian Dumont, élu UMP au conseil municipal de Montpellier, Arnaud Julien, également élu au conseil municipal de Montpellier,
bonsoir,
et président du conseil départemental de l'UMP, ainsi que Clément Fage, militant UMP. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Je suis pour ma part Geoffrey Brusson et j'animerai cette provoscopie accompagnée de Jérémy Nadet. Bonjour Jérémy.
Bonsoir.
Cette émission à majorité populaire traitera du thème de la gérontocratie en politique. Vieux, jeunes, hommes dans la force de l'âge, faut-il faire prévaloir une génération plus qu'une autre pour assurer au mieux l'exercice politique? C'est la question qui motivera les débats de ce soir. Mais avant de commencer l'émission, Jérémy prend le relais pour nous faire part d'une actualité venant de tomber. C'est à toi Jérémy.
Scoop, on vient juste de l'apprendre, c'est tombé il y a quelques minutes là, Nicolas Sarkozy a décidé de fixer un âge maximal de 65 ans pour tous les élus. Députés, sénateurs, maires, conseillers généraux et régionaux, tous seront soumis à cette nouvelle loi qui vise clairement à mettre dehors tous nos vieux politiciens usagés. Avec cette annonce, on imagine la joie de certains jeunes qui attendent depuis longtemps que les vieillards laissent leur place. Au contraire, ces derniers ne vont pas rester silencieux et risquent de défendre chèrement leur mandat. Mais d'où vient cette soudaine envie de jeunisme de la part du président de la République? Il est vrai que, quand on regarde l'âge moyen des députés, 56 ans comme pour les maires, ou celui des sénateurs, 62 ans, on ne peut pas dire qu'il soit représentatif de l'âge moyen de la population française, aujourd'hui aux alentours de 40 ans. Mais quel intérêt aurait-on à rajeunir aujourd'hui la classe politique? Injecter un peu de sang neuf ne pourrait pas faire de mal. Il est logique de se demander si, passé un certain âge, on est encore capable de prendre les bonnes décisions. Certains des vieux machins qui nous gouvernent ne savent sûrement plus ce qu'ils font. D'accord, autorité rime avec sénilité, mais quand même. Rien ne prouve que tous ces vieillards décatis soient encore en phase avec la société. Les jeunes, eux, ont certainement une meilleure vision du futur. Ils pourront aussi redynamiser des mandats que certains croulants, en poste depuis trop longtemps, ont abandonnés, car considérant leur place comme acquise. Et puis, la majorité des Français prennent leur retraite entre 55 et 65 ans. Il serait donc normal que les politiques en fassent d'eux-mêmes. Mais à l'inverse, pourquoi devrait-on écarter du pouvoir les plus vieux, comme ce fut le cas en 2008? Cette année-là, on poussa la doyenne du Sénat, Paulette Brispierre, 91 ans au compteur, vers la porte de sortie. Mais peut-on faire confiance à de jeunes blancs-becs qui pour certains n'ont connu que les élections de leurs conseillers de classe comme processus démocratique? Rappelons-nous le Sénat romain, dont le nom vient de Senatus, à savoir conseil des doyens. Si les Romains considéraient que les plus aptes à prendre les bonnes décisions étaient les anciens, la même théorie devrait encore se vérifier aujourd'hui. La sagesse et l'expérience acquises au fil du temps compensent bien largement l'énergie de quelques morveux. Une bonne connaissance des dossiers ou d'une circonscription sont des atouts considérables pour prendre les meilleures décisions. Alors que choisir? Des jeunes loups ou des vieux lions? Chaque politicien aura sa propre réponse et connaissant leur talent oratoire, un bon menteur n'a pas d'âge, chacun saura nous convaincre parfaitement de sa légitimité. Mais pour l'instant, tout cela ne restera que le rêve, ou le cauchemar, tout dépend de la donnée naissance, de nos élus locaux et nationaux, jeunes et vieux, qui devront encore cohabiter tant bien que mal pour l'intérêt de tous. Car si je peux certifier que rien de tout cela n'est vrai, je n'affirmerai pas pour autant que tout est faux. Cette réforme n'est pour l'instant pas d'actualité, on ne peut exclure qu'un jour un âge maximal soit fixé. En attendant, nos vieux sénateurs, certains parleraient de pléonasme, devraient user encore longtemps les bancs du Palais du Luxembourg.
Merci Jérémy. En écho aux dernières informations qui viennent de nous parvenir, allons maintenant dans la rue pour prendre la température de l'opinion publique. Voici venir les bruits de rue.
Nicolas Sarkozy envisage de fixer un âge limite de 65 ans pour tous les élus. Qu'est-ce que vous en pensez?
Marilyn Lièvre, je suis étudiante actuellement en biologie et j'ai 22 ans. On va non plus les prendre au berceau. La politique, ça concerne l'avenir et des gens qui n'ont plus beaucoup d'avenir devant eux, des gens qui auraient tendance peut-être à être trop conservateurs, peut-être qu'ils ne vont pas envisager la politique de la même manière que nous, que la population plus jeune de la France.
Lionel, alors j'ai 42 ans. Je suis enseignant, je suis plutôt pour cette mesure qui me paraît dans le bon sens. C'est l'âge de la retraite légale pour tous les milieux professionnels, donc je vois pas pourquoi les hommes politiques en seraient exclus.
Oui, à 77 ans, je suis pour. Disons jusqu'à 65 ans, ça va quoi. Mais qu'ils peuvent discuter
enfin, comme disons au Sénat par exemple, c'est que des vieux, c'est que des vieux coulants, ils dorment les trois quarts.
Que de nouvelles. Reprenons maintenant le cours de l'émission avec les portraits divergents. Ce petit jeu d'esprit est très simple et même les animateurs s'y plieront. Pour faire simple, je vais chercher un mot. Après cela, mon co-animateur Jérémy devra lui aussi trouver un mot qui lui semble en rapport avec celui que j'aurai choisi. Et ainsi de suite jusqu'à avoir fait le tour de la table. Une fois que nous aurons assez de mots, nous reviendrons sur vos réponses et les analyserons ensemble. Prêts, messieurs ? Bien. Alors, Jérémy. SFIO.
SFIO. SFIC.
Monsieur Dumont.
SFIC.
Un mot en rapport avec les deux.
Je vois pas trop là, je passe.
Monsieur Julien ?
Vieux.
Vieux. Monsieur Fage ?
Ancien.
Ancien. MJS.
Jeune pop. Monsieur Dumont ?
MJS, jeune peuple.
Jeune pop.
Les jeunesses populaires. Jeunes populaires.
Jeunesses populaires.
Ouais. Jeune pop. Je vois pas.
Dépassé.
Monsieur Fage.
Gauche.
Adhésion.
Attirance.
UMP.
Engagement.
Grand nombre.
J'aurais envie de dire jeune con.
Bah vieux con alors.
Ah bah parfait. À vous.
Monsieur Dumont.
Vieux con.
Ah non, ça a déjà été dit.
Le mot de départ c'est lequel ?
Jeune con.
Jeune con. Jeune con, bourgeois.
Snob.
Je crois que tout a été dit, je sais pas.
D'accord, mais on va continuer. UMP.
URP.
Ah.
URP. Passion.
Sarkozy.
Majorité.
D'accord. État.
Moi, je vais dire collectivité locale.
Nation.
Pouvoir.
Pays.
Très bien. Droite.
Droite, pluriel.
Liberté, égalité, fraternité.
Nation.
C'était quoi le mot de départ ?
Droite. T'as oublié ça quand même.
Gauche. Opposition plutôt.
Ah, bon. Bien. Un dernier mot peut-être ?
Oui.
Alors, révolution.
Révolution, bah, désillusion.
Révolution, indépendance.
Bolchevique.
Renouveau.
D'accord. Bien. Voulez-vous encore continuer ce petit jeu ou passons-t-on à l'analyse ?
Oh, c'est bon.
On a fait le tour, là.
Très bien. Jérémy, je t'en prie.
Monsieur Dumont, on a parlé d'adhésion et d'attirance. Vous parlez de l'UMP. L'UMP attire aujourd'hui, vous croyez ?
Non seulement l'UMP attire, mais c'est l'UMP qui attire le plus. Il suffit de voir
les chiffres des partis politiques en France, l'UMP est le leader au niveau de ses militants et de ses adhérents. D'ailleurs, tous les partis politiques, le challenge pour tous les partis politiques, c'est d'approcher le nombre de militants de l'UMP. Donc, pour moi, l'UMP, c'est le grand parti qui existe en France, par le nombre de ses militants et de ses adhérents. Et ça, c'est les chiffres qui parlent.
D'accord. Moi, pour ma part, j'aimerais revenir sur Jeune Con, Vieux Con. Messieurs Dumont et Julien, vous avez dit Bourges et Snob. Mais alors dans tout ça, des jeunes cons ou des vieux cons, qui sont les Bourges et qui sont les Snobs ?
Ah, écoutez, c'est vrai que c'est difficile d'avoir un nom associé à ce que vous avez dit. Christian a parlé de bourgeois, moi de snob. Bon, c'est l'image qu'on peut se faire d'un jeune con, quoi. Donc, un jeune con, c'est quelqu'un qui se la pète. Voilà. Donc, après, c'est pas une question de politique, hein, c'est une question d'éducation. C'est la connerie, elle est partagée par tout le monde, malheureusement.
Donc, les vieux cons, lorsqu'ils ont été éduqués, étaient forcément bourgeois.
Ah, bah, vous savez, vous avez la concurrence, enfin, vous avez la confrontation entre la pensée de Rousseau et de Montesquieu, hein, parce que c'est la société qui pervertit les individus ou pas. En tout cas, nous, à droite, on est plutôt de la tendance de Montesquieu.
Bien.
Alors, monsieur Julien, pour MJS, donc le mouvement des jeunes socialistes et jeunes populaires, vous avez répondu, si je ne me trompe pas, dépassé.
Bon, c'est ringard, être MJS, franchement.
Et jeunes populaires ?
Jeunes populaires, c'est plutôt tendance. Regardez, l'ITOP, là, je sais pas quoi, le truc en vidéo, voilà, ça bouge. Le MJS, ils sont en train de là, ils sont en train de se masturber le cerveau matin, midi et soir pour faire le monde, alors qu'ils sont pas capables de refaire leur appartement. Donc bon, c'est plutôt marrant, non ? Mais l'engagement politique, je crois que c'est bien. Hormis la boutade, l'engagement politique, c'est bien. Après, les MJS, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Un peu comme Julien Drey, hein, ça y est, ils piquent dans la caisse après.
Bien.
C'est dit.
Oui, ça c'est fait. On va pas revenir là-dessus. Donc, ah mince, on a une question en moins là. Non, j'aimerais revenir sur Révolution Désillusion. Donc, Monsieur Dumont, vous avez dit indépendant. C'est bien ça. Donc, la Révolution mène forcément à l'indépendance.
Ah, moi, j'évoquais la Révolution française. La Révolution française, quand même, est un grand tournant de notre histoire où on est passé d'un système de royauté, de monarchie, à un système où il y avait plus de liberté, ou plus d'indépendance. Et pour moi, la révolution, moi, je l'assimile à la Révolution française, hein, pas la révolution qu'il y a eu en Iran, si vous voulez. La Révolution française, quand même, elle a marqué les esprits. C'est le siècle des Lumières. C'est la Révolution qui, quand même, est à l'origine de nombreuses constitutions d'autres pays ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, la Révolution, c'est quelque chose qui a apporté de la liberté, de l'indépendance et toutes ces valeurs qui fondent une démocratie.
Donc aucune désillusion suite à la Révolution française. Je veux dire, il n'y a pas eu de grand moment de déception, on est toujours restés unis. Enfin, moi je me rappelle quand même qu'après la Révolution française, il y a eu l'Empire. Mmh. Donc si ce n'est pas une désillusion de la démocratie...
Après, il y a les hommes qui font l'histoire. Hein. L'Empire, je suis pas un historien, hein, mais à travers les connaissances que j'en ai, ça n'a pas été forcément la période la plus triste de notre histoire. Hein,
non, mais en plus, au niveau de l'histoire, je veux dire, il faut quand même se rappeler que la Révolution, des armées étrangères étaient à nos frontières, étaient prêtes à nous envahir. Donc la nation s'est mobilisée. Après, il y a un homme providentiel qui s'appelle Napoléon Bonaparte qui est venu, entre guillemets, sauver la nation. Il faut quand même se rappeler un peu comment ça se passait. Donc la Révolution française a été d'ailleurs précurseur de beaucoup de révolutions. Et d'ailleurs, beaucoup d'États d'ailleurs, se revendiquent de cette philosophie de la Révolution et des Lumières.
Écoutez, on préfère dans l'histoire Napoléon qu'à Pétain, par exemple.
Oui, oui, ça c'est sûr. Mais...
Ou Fidel Castro.
Fidel Castro, oui.
Oui, mais ça, c'est pas en France, non. Par contre.
Non, heureusement.
Jérémy ?
Moi, il y en a un dernier, c'était sur la droite plurielle. Alors, Monsieur Julien, vous avez parlé de nation. Monsieur Fage, d'opposition. C'est assez,
voilà, y a...
c'est assez différent.
J'allais y revenir aussi, oui, en effet. Il y a un petit changement.
Pas les mêmes vues, là.
La droite plurielle, j'ai répondu ça.
Oui. Vous avez répondu nation.
Ah non, j'ai compris la droite, moi. Oui, la nation, c'est quelque chose d'important. C'est un repère. On vit une société où malheureusement les repères disparaissent au fur et à mesure. Et l'idée même de nation, je pense que c'est un repère parmi d'autres. Hein. Il y a des repères familiaux, des repères régionaux et autres. Mais c'est vrai que l'idée de la nation, c'est quelque chose de bien de se rappeler où est-ce qu'on vit. On vit dans un beau pays et c'est bien parfois de se le rappeler.
Bien, donc pour revenir sur le même thème, Monsieur Fage, voilà. Dans droite plurielle, vous voyez opposition.
Alors moi, j'étais parti de droite, et dans droite, je voyais justement le clivage droite-gauche qui existe aujourd'hui.
Ah oui, mais on parle de droite plurielle, voilà, là.
Moi, j'étais parti de la droite, et c'est pour ça que dans la droite, je voyais cette opposition, ce clivage droite-gauche qui existe aujourd'hui dans notre pays.
Ah oui, mais si vous prenez pas tous les mots en même temps...
Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Mais là, sur celui-là, j'avais pris, je m'étais concentré sur droite.
Tu t'es fait piéger.
Voilà, je pense que je me suis fait piéger.
Il n'a pas bien écouté les règles du jeu.
On n'a mis aucun piège, voyons. Bien. Bon, Jérémy, autre chose ?
Je crois que c'est tout, non ? Moi, pour moi, c'est bon.
D'accord. Eh bien, nous allons passer à la suite de l'émission. Parlons donc maintenant de l'exercice du pouvoir par les vieux briscards de la politique au détriment des plus jeunes encartés. Mais avant d'entamer les réelles hostilités, nous allons commencer par le débat inversé. Messieurs militants et politiques, chers invités, je vais vous rappeler les règles de ce croustillant exercice. Chacun d'entre vous va devoir soutenir le point de vue d'un autre invité. Monsieur Dumont, vous prendrez le rôle de Monsieur Fage, tout fraîchement encarté. Monsieur Fage, quant à vous, aurez la charge de défendre le point de vue de Monsieur Julien. Et quant à vous, Monsieur Julien, vous entrerez dans le rôle de Monsieur Dumont. Échange complet de points de vue, à vous de défendre au mieux vos convictions. Avez-vous bien compris ? Bien, commençons les questions. Jérémy, je t'en prie.
On commence par qui ? On va commencer par le plus jeune pour...
Oui, mais dans quel sens ?
Le plus jeune dans ce studio, mais qui doit prendre la position de l'adulte, on va dire.
Oui, bien.
Alors, Monsieur Fage, est-ce que, selon vous, il ne faudrait pas mieux avoir des politiques de 30-40 ans ? On peut considérer que c'est le bel âge, ni trop jeune et inexpérimenté, ni trop vieux et dépassé.
Effectivement, avoir des politiques entre 35 et 40 ans serait l'idéal, puisque à cet âge-là, on a une certaine expérience de la vie, mais aussi de la politique. Ça permettrait d'avoir un certain équilibre dans les décisions qui sont prises. Mais je pense aussi qu'il faut avoir des jeunes comme des aînés pour permettre d'équilibrer les décisions et les idées qui sont proposées.
On n'est pas pris au sérieux à 30 ans, hein. Avant 30 ans, je veux dire.
Vous croyez qu'avant 30 ans, on n'est pas pris au sérieux ?
Est-ce que vous croyez, pour l'instant, que vous êtes pris au sérieux à l'UMP ?
Si je suis dans la position de M. Julien, je suis plus de 30 ans, donc je suis pris au sérieux.
Oui. C'est pas ça.
Si je suis pas pris au sérieux, ça chie dans la colle. Pas déconner non plus. Hein.
Bien. M. Julien, justement.
C'est moi.
Voilà. Donc, vous êtes dans la position de M. Dumont.
C'est pas difficile.
Mais alors,
il est un peu enrhumé, donc.
Alors, les vieux, ne sont-ils pas ceux qui ont le plus d'expérience dans la politique ?
Ah, vous savez, en politique, il faut avoir toutes les tranches de la population. Donc, les personnes un peu plus âgées sont les personnes qui ont plus de maturité, plus de recul sur la vie. Et c'est vrai que le fait d'être un peu plus âgé permet aussi de voir les choses un peu différemment. Et de voir peut-être les choses aussi un peu objectivement, avec un peu plus de recul et moins de passion.
D'accord. Est-ce qu'avant 50 ans, on a une vision assez large et une vie politique assez importante pour prendre les bonnes décisions ? Est-ce qu'on a été confronté à cette situation pour pouvoir assumer un mandat en toute quiétude ?
Je pense que ce n'est pas une question d'âge. Vous savez, il y a des gens, sans doute, qui nous écoutent, qui ont 25 ans et qui ont traversé des choses difficiles dans leur vie et qui ont parfois plus de maturité que quelqu'un qui a 50 ans. Donc c'est un parcours personnel, vous savez. L'expérience, Churchill disait que l'expérience est une succession d'erreurs, donc parfois des erreurs bonnes, des erreurs mauvaises, mais en tout cas, je crois qu'en effet, c'est pas une question d'âge.
Et est-ce que vous avez fait beaucoup d'erreurs ?
Non, aucune.
Ah bon, alors...
Je sais pas, je suis pas... Christian, tu as fait des erreurs ?
Ah, certainement.
Oui. Qui ne fait pas d'erreurs ? Qui ne fait pas d'erreurs ?
Bien.
On va finir avec Monsieur Dumont. Alors, est-ce que selon vous, les jeunes représentent l'avenir. Ils ont des idées plus modernes.
Alias Monsieur Fage.
Oui, oui, bien sûr.
Bien sûr. Un renouveau serait sûrement nécessaire, non ?
La valeur n'attend pas le nombre des années. Le CID.
Corneille. C'était facile.
Non, mais, non, non, mais il faut savoir quand même, quand on parle des problèmes des tranches d'âge, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Arnaud Julien. On a eu, par exemple, l'élection de M. Obama. M. Obama a été un jeune président de la République. De la République. C'est un jeune président des États-Unis, pardon.
De l'Union.
Voilà. Je veux dire, quand à 40 ans, vous n'êtes pas un vieux. Dans le système français, on a l'impression que pour avoir des responsabilités politiques, il faut passer la barre des 40 ans. C'est tout à fait inexact. On peut très bien avoir des responsabilités. Vous savez, à 30 ans, vous n'êtes plus un jeune. Un jeune, pour moi, c'est quelqu'un qui finit sa scolarité, qui rentre dans le monde du travail, mais à 30 ans, vous pouvez avoir la légitime ambition de vous présenter à des investitures, que ce soit au Conseil général, au Conseil régional. Alors regardez, c'est curieux que dans votre présentation, vous n'en ayez pas parlé, mais regardez la polémique qu'il y a eu lorsque le fils de Sarkozy, qui est quand même... je sais pas, il est devenu président du Conseil général des Hauts-de-Seine.
Non, il est président du groupe.
Il est président du groupe. Mmh. Il est à 23 ans président du groupe UMP des Hauts-de-Seine. Je veux dire, il a pas attendu. Bon, alors.
Est-ce que c'est pour sa valeur ou parce qu'il a un père qui est bien placé ?
Déjà, il doit pas être con. Hypothèse de base. Je veux dire, moi, je veux bien qu'il s'appelle le père. Non, mais déjà, il doit pas vraiment. Il doit savoir naviguer quand même.
Ah ben, quand même, il a un peu de problème dans les études, justement.
Oui. Non, mais qu'il ne mène pas.
Il est peut-être doué en politique, mais.
Non, mais qu'il ne mène. Voilà, oui. Qu'il ne mène pas tout de front, ça, c'est possible. Mais en politique, il doit quand même connaître la chanson.
Il est à la bonne école. Hein.
Voilà, il est à la bonne école, il connaît la chanson. Bon, alors ça, c'est un exemple qui peut-être n'est pas topique. Mais en revanche, il faut, en France, moi, c'est ce que je conteste un petit peu au niveau des partis politiques, c'est qu'on a tendance à investir les jeunes trop tardivement. Et je crois qu'avec ce qu'on a fait, nous, sur le plan local, où on a quand même un jeune président du comité départemental, le plus jeune de France, et il aurait pu l'être bien avant, d'ailleurs. Bien avant. Je veux dire, être à 37 ans président du comité départemental...
37 ans, c'est un peu plus jeune qu'Obama, quand même.
C'est pas vraiment un exploit. À 37 ans, il y a des gens qui sont secrétaires d'État. Mmh. Hein ? À l'UMP, on a des gens qui sont secrétaires d'État à 37 ans. À 37 ans, secrétaire d'État, donc...
À 37 ans, on a fini ses études, on est adulte.
Oui, non, d'accord, mais enfin, moi, je vous dis qu'à partir de 25, 26, 27 ans, on pourrait très bien candidater pour être conseiller général sur un canton, conseiller municipal, ça va de soi, député. Alors, le problème, c'est la vie politique, parce qu'une circonscription, c'est quelque chose. Hein. C'est-à-dire, prendre une circonscription, ça va pas se donner à un jeune comme ça qui débarque, parce que derrière, il y a toute l'histoire d'une circonscription, il y a l'histoire de la personne qui était avant, qui certainement est un type qui a 3-4 mandats derrière lui, et on ne met pas à la place un jeune comme ça tout de suite. Bon, là, à mon avis, il y a au niveau des partis, de la démocratie des partis fait que la vie dans les partis, on devrait imposer et faciliter un petit peu l'accès aux jeunes à ces postes de responsabilité. Mais d'un autre côté, les gens qui y sont depuis 2, 3, 4 mandats, ben, ils verrouillent. Hein, ils ont la place et ils veulent pas la perdre.
Et j'aurais une petite question quand même, parce que bon, vous êtes jeune, prometteur, et franchement, passé 50 ans, on n'est pas un peu has-been quand même?
Ah ben, moi, je veux dire une chose.
Quand même, un peu.
Non, mais moi, je crois qu'il ne faut pas avoir cette vision manichéiste de l'âge comme ça. Vous savez, il y a des jeunes, on parlait tout à l'heure, il y a des jeunes cons. Il y a des jeunes qui ont 27, 28 ans et qui sont très vieux dans leur tête. Moi, qui sors de la fac de droit, par exemple, quand j'ai été, j'ai des copains qui ont 22, 23 ans, qui viennent à la fac en costard, en cravate, et avec la tâche case. Ce sont des petits connards. Des fils à papa. Non, mais attendez, moi je veux dire, des fils à papa qui viennent avec la voiture que papa a achetée, etc. Pour moi, ce sont des jeunes cons.
Et qui mais Jean Sarkozy, il est en costard.
Et qui sont vieux dans leur tête. Mais, Jean Sarkozy, c'est un autre milieu. Il va pas. Jean Sarkozy.
Il fait droit aussi. Hein.
Jean Sarkozy, il va pas venir en jean et en vieille dans une vieille voiture pour faire peuple. Il s'est marié avec une fortune de France qui s'appelle Darty. Donc.
Bon, c'est vrai que ce n'est pas Olivier Besancenot. Bah, je vous l'accorde.
D'accord. Donc chacun.
Besancenot qui est quand même facteur à lui sur scène. Hein. Pour un gauchiste de base, ça fait quand même rigoler. Quoi. Il ne travaille pas dans les quartiers difficiles de Paris, en banlieue parisienne. Hein. Donc il faut arrêter sur le petit Besancenot.
Donc pour répondre à votre question, à 50 ans, si quelqu'un à 50 ans veut se lancer en politique, par exemple, et qu'il n'a jamais exercé de mandat, ben c'est quelqu'un qui est jeune en politique. Quelqu'un qui est jeune en politique. Et quelqu'un qui, à 50 ans, peut être très vieux en politique si... il a eu s'il a fait de la politique en tant que professionnel et si depuis l'âge de 25 ans, il vit de la politique. Voilà, c'est tout.
Dernière question pour vous. Ne faut-il pas associer les jeunes le plus vite possible, même au détriment des plus vieux, afin de les former à la politique ?
Je ne crois pas que ce soit au détriment des plus vieux. C'est avec l'expérience des plus anciens, il faut effectivement associer les plus jeunes et il faut cesser de donner aux jeunes... comme également aussi aux femmes ou aux minorités, se donner bonne conscience et leur donner des rôles parce que justement, ils sont jeunes. Et les cantonner, les jeunes, ils n'ont pas vocation dans un parti à faire toujours, à jouer les Claudettes, quoi, quand on voit derrière les estrades.
Ah, pourtant, dans le Libdob, il y a de beaux exemples. Hein,
moi, je vous donne ma vision des choses. Et ça serait bien, des fois, que l'on puisse, lorsqu'il y a des réunions... faire éclore un petit peu les talents, donner la parole, le micro à des jeunes. Je me souviens, avec Arnaud, je ne sais pas si tu y étais, lorsqu'il y a eu la convention où il y avait Ramayad qui avait pris la parole pour la première fois.
Le 14 janvier 2007.
Voilà, le 14 janvier 2007, merci Arnaud. Et dans l'ordonnancement, on lui avait donné 3 minutes. Elle en avait pris 10 et elle avait explosé la salle. Eh bien, c'est ce qu'il faudrait faire à Montpellier, et avoir des jeunes, de les faire monter un petit peu au créneau et voir ce qu'ils ont dans le ventre, plutôt que de les voir gesticuler avec des pancartes ou des t-shirts à l'effigie de l'un ou de l'autre. Moi, c'est la conception que j'ai. Il faut faire parler les talents, et ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'il faut être cantonné dans un rôle très, très, très strict.
Oui, mais forcément, à la base, il faut bien commencer par le militantisme, ça, de toute façon.
Mais haranguer les foules, ça fait partie du militantisme. Les jeunes, ils ne sont pas simplement là pour donner des tracts le samedi ou le dimanche. On fait appel à eux pour venir aider dans les campagnes. Il faut que les jeunes... il faut la carotte aussi, en politique. Il faut, si ça leur plaît. Si la personne dit, moi, j'ai envie de parler, j'ai envie d'haranguer les foules, de chercher à convaincre, eh ben, il ne faut pas le brimer. Il ne faut pas lui dire, ah, mais toi, tu seras sur l'estrade eh ben, quand tu auras les tempes grisonnantes.
Oui, mais au-delà de ça, c'est bon, vous l'avez dit tout à l'heure lors des portraits divergents, il y a, vous vous êtes tous entendus, l'UMP, enfin le militantisme, les jeunes UMP, il y a énormément de jeunes UMP. Ça, vous pouvez pas dire le contraire, mais est-ce qu'il va y avoir assez de place ? Au bout d'un moment, on va pas pouvoir pousser les murs des conseils généraux, il faudrait faire de la place aux vieux. Donc, plus de vieux, plus de place pour les jeunes.
Il faut faire de la place aux jeunes.
Oui, excusez-moi, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais vous avez compris le principe,
oui.
D'après vous.
Non, mais c'est le problème des vases communicants. Il y a un changement de génération qui va se faire. Alors, c'est sûr que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. On ne va pas légiférer là-dessus, on ne va pas donner un âge. Mais il faudrait que les gens qui fassent de la politique aient chevillé au corps. Et ça, c'est l'intérêt général. Et ne plus faire de la politique uniquement pour servir leur ego. Moi, je ne comprends pas que des gens comme, par exemple, sur la situation à Montpellier, des gens qui ont 72 ans, comment des gens qui ont 72 ans peuvent parler d'avenir, peuvent avoir des projets à long terme à un âge, on le voit bien, on a tous des parents, on a tous des grands-parents, à un âge où on aspire à souffler un peu, à prendre du recul et à faire autre chose. Je veux dire, à 72 ans, on n'a plus le même dynamisme, surtout quand on a été usé par tant d'années de pouvoir. Sauf si à 72 ans, on n'a jamais exercé de mandat, ou on peut avoir un visage neuf, un regard neuf. Donc, c'est dans la loi, je pense qu'il faut voir au niveau du... Il y a le problème des cumuls, mais aussi de caractère répétitif des mandats. Je veux dire, ce n'est pas sain que quelqu'un puisse être 5 fois de suite élu maire. Il faut passer à une autre génération, il faut passer 5 fois de suite élu président du conseil régional ou président du conseil général. Et comme cela, on va participer à un renouvellement des générations. Parce que si ces gens-là ne sont pas capables, c'est un peu comme l'artiste ou le sportif de haut niveau qui fait le match de trop. Ces gens-là, s'ils ne sont pas capables de se dire « c'est le mandat de trop, j'arrête parce que c'est de l'intérêt général que l'exercice de mon mandat soit exercé par une autre personne pour donner une autre impulsion », eh bien, il faut qu'on le leur dise.
Bien, merci de vos réponses sincères à tous. Nous allons passer à une nouvelle partie de l'émission, la question langue de bois. Nous avons préparé une question à laquelle vous devez répondre avec le point de vue opposé au vôtre et surtout le maintenir. Alors, messieurs, les uns après les autres, bien sûr, êtes-vous tout simplement pour ou contre cette parité entre les générations ? Monsieur Fage ?
Dans la position dans laquelle je suis bien sûr contre cette parité entre les jeunes et les aînés en politique.
Ah, vous êtes contre, donc ?
Je suis contre.
Mais pourquoi ? Ça vous avantagerait ? Mais c'est la question. S'il y a une parité, vous pouvez avoir un poste.
Bien sûr, mais la partie de l'émission, c'est langue de bois, donc je dois répondre justement en sens inverse.
Et moi, je dois vous titiller.
Et voilà, oui, je suis d'accord. Mais certes, ça m'arrangerait, mais il faut laisser les gens qui ont une expérience, les gens qui ont du recul en place, pour pouvoir prendre les bonnes décisions.
Donc vous l'avez dit vous-même, ça vous arrangerait ?
J'ai pas dit que ça m'arrangerait.
Ah bah si, vous l'avez dit.
J'ai dit qu'il faut laisser les gens qui ont de l'expérience. Ils peuvent des fois apporter un plus sur certains points.
Donc pas besoin de jeunes.
Pas du tout, même.
Pas du tout besoin de jeunes, oui. Puisque c'est la question langue de bois, je réponds avec ma langue
sincérité.
De bois. Comment vous voulez répondre avec sincérité sur une question langue de bois ?
Ah, bonne question. Monsieur Julien ?
Une question difficile sur la parité. Aîné jeune. Déjà, est-ce que je suis pour ou contre ? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Ensuite, défendre donc l'inverse de ce qu'on pense.
C'est tordu un peu comme émission, ça. Hein, je ne sais pas ce que t'en penses.
C'est carrément tordu. Quoi. Surtout que moi, je pense à l'auditeur qui prend ça en route et qui nous entend raconter le contraire de ce qu'on peut penser.
Ah bon. Il faut répondre quand même. Hein.
Là, franchement, en plus, la question là, sur la... Ouais, c'est vrai, ouais, divergence, c'est vrai que ça déconne pas. Hein.
Non, non, pas du tout, on n'est pas là pour ça.
Donc sur ça, bon alors, écoutez, moi je suis favorable à cette parité, en effet. Je crois qu'il est nécessaire de faire un mélange aîné-jeune, mais pas qu'il y ait une place prépondérante à l'un des deux.
Oui, donc une parité dans le sens le plus strict du terme.
Tout à fait.
Monsieur Dumont ?
Alors la question.
La question, êtes-vous tout simplement favorable à cette parité entre les générations ou non ?
Et donc, il faut que je réponde par ce que je ne pense pas.
Langue de bois, l'opposé total de votre point de vue.
Ah, non mais l'opposé total, donc mon point de vue, moi j'ai mon opinion sur la question.
Voilà,
mais
le contraire.
Le contraire.
Voilà. Argumentez, bien sûr.
Alors... Ah, moi, je suis tout à fait favorable à la parité entre les générations. C'est exactement au même titre qu'il faut, dans les compositions de liste, maintenant, on a exigé une parité femme-homme. Et aussi, maintenant, à travers les états-majors politiques, en tout cas, à l'UMP, on nous l'impose... c'est l'ouverture, hein. Vous savez que c'est l'ouverture à la société civile, aux minorités. Alors, on va arriver à ce qu'il y ait une parité entre les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux,
les grands, les petits,
les minorités Et ceux qui sont malades et ceux qui ne le sont pas.
Excusez-moi, mais une tranche d'âge, c'est une minorité ?
Non, je vous parle des minorités, moi. Je vous parle des minorités, donc... vous savez que...
Mais quelles minorités
Les minorités ethniques, sociales. Vous savez, au gouvernement, on a eu Mme Rachida Dati, elle est issue des minorités. On a eu Mme Ramayad, voilà. Et donc, on nous dit, quand même, dans les états-majors, quand vous faites des listes, il faut que ces minorités soient représentées.
D'accord.
Donc, pourquoi pas aussi faire une parité pour les minorités ? Vous m'avez dit de dire ce que je pense.
Oui,
je pense.
Non, tout à fait.
Donc, vous voyez à travers ce que je viens de vous dire ce que je pense, quand même.
Parfait.
La France, pays d'assister, je les supporte de moins en moins. À commencer par mon voisin. Mais c'est sympa ce qui passe à la radio. Pourquoi je n'aimais pas ça, tout c'était idiot. Pourquoi toujours aider les gens? Mon chien préféré c'est le berger allemand. La vérité me frappe enfin maintenant. C'est chacun pour soi, Dieu choisit les méritants. Et tant pis s'il faut que je mette des mocassins ou des bateaux. Ça me gêne pas. Ma fille doit apprendre le clavecin ou le hautbois. Et puis merde, je vote à droite juste pour savoir comment ça faire. Et puis merde, je vote à droite, je serai sûrement riche tout de suite après. Après je vous mépriserai, ça me rendait malade. La fête de l'humain, au puits du fou, là je me sentais chez moi. Et s'il fallait confesser, c'est seulement à Vulcania que j'ai pris mon pied. Je pourrais m'acheter un petit 4x4, même un gros. On va pas me demander d'être écolo. Je revends mes disques de Jean Ferrat, mais qu'il est drôle ce Laurent Gérard. Et tant pis s'il faut que je lise le Figaro dans le métro. Ça me gêne pas si je dois être le seul à trio qu'applaudit. Et puis merde, je vote à droite. Fini d'être culpabilisé. Fini le partage, vive le mérite. Ceux qui foutent rien pas, on les pille. Ça boostera les statistiques. Chérie, de ça suffit pas, c'est pas assez. On va refaire 5 enfants, revendre notre stérilet. Tu vas quitter ton travail pour mieux tenir la maison. Et toi, ma fille, plus jamais en pantalon. Le chômage va reculer sans fléchir. Mon chien va sûrement se mettre à m'obéir. Les poubelles ne seront plus renversées. Les mauvais éboueurs ne seront plus régularisés. Et tant pis s'il faut que je passe 15 heures par jour au bureau. Ça me gêne pas si on doit supprimer les chômeurs en fin de droit. Et puis merde, je vote à droite. Les improductifs, pas de chance. Je suis fier, je vote à droite. Marre d'être taxé à outrance. Comme Florent Pagny, quitter la France.
Bien, merci de votre participation à nos petits jeux. Il est maintenant pour nous tous de parler clairement du sujet pour lequel nous vous avons invité. Donc messieurs, cette possibilité de loi pour une interdiction de mandat après 65 ans, rêve ou cauchemar ? D'après vous, monsieur Julien par exemple.
Bon, écoutez, moi je suis sur cette question-là, 65 ans, vous savez... C'est jeune, enfin c'est encore un peu jeune maintenant, une société, hein, on a une espérance de vie beaucoup plus large. Après, fixer une date limite pour les élus, je pense que la seule limite, c'est l'élection. Le jour où ils sont virés, bon après c'est sûr que quand on voit à Montpellier, que ce soit Hélène Mandrou, André Vizinet et Georges Frêche, ils ont tous le même point commun, c'est qu'ils ont le même âge. Ça fait 30 ans qu'on les voit dans le décor, c'est vrai qu'on aimerait bien changer un peu les acteurs. Donc, malheureusement pour nous... Les électeurs ont choisi de les reconduire à chaque fois. Est-ce qu'il faut fixer un âge ? Pour les élections législatives, à l'UMP, maintenant, c'est 70 ans, la limite. C'est-à-dire que c'est 70 ans. C'est-à-dire qu'en 2007, les députés qui avaient plus de 70 ans n'ont pas été renouvelés, enfin, n'ont pas été réinvestis par l'UMP. Donc c'est déjà un premier progrès. Et je sais que le coup d'après, ça sera plutôt proche des 65 que des 70 ans pour les réinvestir de nouveau. Donc, comme disait d'ailleurs Christian Dumont au juste titre, moi je suis favorable à la durée, à la durée des mandats, c'est-à-dire qu'on devrait limiter au nombre de 3 mandats successifs quelqu'un qui serait député, maire, conseil général, conseil régional, et arrêter un petit peu l'empilement justement des... on peut pas être 5 fois réélu maire, c'est comme dans un emploi, vous avez un emploi, au bout de 30 ans, je suis pas sûr que vous ayez des idées nouvelles. Je crois que pour le renouvellement de la classe politique, c'est bien de limiter à 3 les mandats, d'autant plus qu'en avis politique, vous savez, vous pouvez être député, conseil général, conseil régional, maire, sénateur, enfin bref, si vous voulez vraiment faire de la politique et vous éclater pour l'intérêt général, vous pouvez effectivement faire une carrière diverse et variée. Voilà.
Donc limiter à 3 mandats, 3 fois un seul mandat ou juste 3 mandats dans une carrière ?
Non, pas dans une carrière, non, mais 3 mandats successifs sur une même fonction, voilà. On peut rester 15 ans député, donc 3 mandats de député, 18 ans maire. Vous savez, au bout de 18 ans, en tant que maire, en plus, vous savez, la démocratie dans notre pays, vous le voyez à Montpellier, à partir du moment où vous êtes maire pendant 30 ans, vous avez tout verrouillé, quoi. L'associatif, le logement social, l'emploi dans une mairie, vous avez toute une génération de municipaux qui doivent leur emploi. Donc c'est pas très simple pour la démocratie, je crois qu'il faut un peu renouveler. Je pense que moi, si j'étais parlementaire, je pense que ce serait quelque chose que j'essaierai de travailler, en effet. Ce serait la durée cumulée des mandats.
D'accord. Monsieur Dumont ?
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire mon ami Arnaud. Je le vois surtout, moi, dans une limitation des mandats. Parce que si on veut que le politique retrouve confiance auprès de l'opinion publique, parce qu'on voit qu'il y a un grand désamour entre les élus et ceux qui votent pour les élus. Il faut arriver à se discipliner. Parce que comment voulez-vous que des gens soient audibles quand on parle, par exemple, en ce moment d'un gros problème, c'est l'âge de la retraite. Et que ceux qui font la loi, ceux qui vont légiférer, où on vous dit, bon, on va travailler un peu plus, etc., mais il faut prendre la retraite à 65 ans, 66 ans, 67 ans. Ce sont des gens qui vont avoir 72 ou 75 ans. Le contribuable français, il ne comprend pas. Il ne comprend pas que des gens à 75 ans puissent continuer à percevoir des avantages attachés à leur fonction de sénateur. Par exemple, l'image du Sénat n'est pas une image saine pour notre démocratie. Le Sénat n'est pas ad vitam aeternam voué à des gens qui ont plus de 70 ans. C'est pas parce qu'on peut avoir un Sénat jeune, dynamique. On peut avoir des sénateurs à 40 ou 45 ans. Donc il faut à tout prix, puisque les hommes politiques n'ont pas cette sagesse de prendre les décisions qui s'imposent à eux et que quelquefois donc parce qu'ils n'ont pas en vision, en perspective, l'intérêt général, mais simplement leur ego, et de dire finalement je reste à ma place. Alors dans l'inconscient collectif, les gens vous disent sur le terrain, c'est que la place est bonne. Et ça, c'est une mauvaise conception de la politique et c'est comme cela, que si on continue comme cela, il y aura cet écart entre le peuple et les élus. Donc le problème de la limitation des mandats, on peut faire beaucoup de choses en 3 ans de maire, beaucoup de choses en 3 ans de mandat de député. Je crois que on doit s'inspirer de cette restriction-là pour faire revivre un peu la démocratie et mettre du sang neuf dans nos institutions.
Bien. Monsieur Fage ?
Je suis d'accord avec messieurs Julien et Dumont. Effectivement, mettre un âge limite, c'est difficile de juger à partir de quel âge quelqu'un est vieux, à partir de quel âge quelqu'un ne peut plus assumer ses fonctions. Je pense que si la personne est en bonne santé et capable, il faut la laisser. Ensuite, même si cette loi, les quotas, serait une chance pour les jeunes de rentrer en politique peut-être plus facilement, elle représente un danger qui est le danger de tous les quotas. En effet, comme vous l'avez dit, M. Dumont, il y a le risque de dire voilà, vous êtes jeune, vous êtes là pour remplir les quotas. Et vous n'êtes pas là par votre engagement, par votre envie de faire de la politique et votre envie de travailler pour l'intérêt général.
Mais vous avez quand même des choses à dire en tant que jeune. Ça serait une opportunité formidable.
Bien sûr, ça serait une opportunité, mais est-ce qu'après, le danger est grand après qu'on vous dise, voilà, vous êtes jeune, vous remplissez le quota de jeunes. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Oui, mais...
Comme le quota, par exemple, pour la parité. Aujourd'hui, ben, y a des femmes qui sont présentes et on leur dit, vous êtes là pour remplir les quotas. C'est le danger du quota. Certes, ça représente une chance, mais il y a un danger qui est important après.
Donc, attendez, ça veut dire que les femmes ne sont là que pour remplir un quota ?
J'ai pas dit ça. J'ai dit, par contre, j'ai dit que dans certains cas, il y a certaines personnes qui sont là pour remplir des quotas. C'est le danger, justement, et c'est le danger bien connu des lois qui instaurent des quotas.
Et les jeunes sont là pour remplir des quotas ?
Pourquoi vous dites ça ?
Bah, tout simplement, est-ce que si cette loi passait,
oui.
Est-ce que vous auriez quelque chose de concret à apporter ? Vous,
la jeunesse,
à votre titre personnel, la jeunesse, de la modernité ?
Bien sûr, la jeunesse a toujours un apport de modernité à faire. Elle est en phase avec toutes les technologies. Aujourd'hui, ça peut apporter un plus. Mais il faut quand même des aînés aujourd'hui pour nous former, pour nous apprendre tous les rouages de la politique qu'on ne connaît pas. Comment vous voulez ? Il faut que les jeunes... Enfin, les jeunes ont conscience que sans les aînés, on ne serait rien. On serait rien aujourd'hui. Il faut les deux.
Et Monsieur Fall, bon, vous n'avez aucune responsabilité au sein de l'UMP. Alors, est-ce que vous aimeriez en avoir dans la région ? Pas forcément être élu pour l'instant, mais il y a certains jeunes populaires qui ont quelques responsabilités dans...
Certains jeunes populaires aujourd'hui ont des responsabilités.
Ça vous intéresserait ?
Mais aujourd'hui, écoutez, je fais mes études, je privilégie mes études, et après, j'ai le temps de voir... les responsabilités et les éventuelles responsabilités.
Mais aujourd'hui, je me concentre sur les études, contrairement voilà. À certains, oui.
Vous faites allusion à qui ?
D'après vous ?
Ah, je sais pas.
Un UMP qui privilégie la politique à la place de ses études, dont on a parlé dans l'émission.
D'accord, et qui se situe dans le nord de la France.
Il y a des chances.
D'accord.
Bien. Jérémy, d'autres questions ou des réactions peut-être autour de la table ?
Bah, par rapport à ce que vous avez dit sur Jean Sarkozy, parce que les attaques, bah, franchement, vous êtes en train de blâmer tous les étudiants qui ne réussissent pas leurs études, et je vous ferai
vraiment
scandaleux. Juste Jean Sarkozy.
Vraiment scandaleux, vous savez, pas tout le monde a la chance de faire des études longues, pas tout le monde a la possibilité de faire des études longues, et pas tout le monde peut avoir son examen dès le mois de juin. En tout cas, moi, je tiens à saluer tous ceux qui font leurs études ce soir à votre émission, voilà. Merci, dont Jean Sarkozy.
Merci beaucoup. Mais donc, si on reprend ça, ça veut dire que... Vous pensez que ça serait intéressant un quota pour ceux qui réussissent pas leurs études et qui veulent quand même rentrer dans la politique ou pas ?
Bon, vous savez, la politique, c'est les électeurs qui décident. Hein. Vous gagnez, vous perdez les élections. Donc c'est pas une question de diplôme, fort heureusement. Vous savez, mon père a une expression qui... ouais, je cite mon père, hein, vous voyez. Les diplômes ne protègent pas de la connerie. Voilà.
Ah, c'est une belle expression, voilà. Franche, directe.
comme le sait faire mon père, donc en tout cas... Non, mais en plus, très honnêtement, je trouve que les attaques que vous avez contre certaines personnes qui ne sont pas sur le plateau sont un peu déplacées. Et Jean Sarkozy, comme disait d'ailleurs Christian Dumont, est quelqu'un qui a été élu par des électeurs. Donc il n'y a pas de, comme dirait Georges Frêche, de sous-électeurs ou de sur-électeurs. Les électeurs qui ont élu Jean Sarkozy, il est conseiller général, il est élu de la République. Et à ce sens-là, comme tous les élus, que ce soit de gauche ou de droite, il faut les respecter.
Monsieur Dumont, une réaction peut-être
Si vous me demandez de défendre Jean Sarkozy...
Non, sur l'ensemble du débat...
Je pense qu'il n'a pas, il a pas besoin de moi, puisqu'il s'était très bien défendu lorsqu'il avait été attaqué, il avait fait l'objet de cette polémique stérile, et il avait... Alors, moi, en revanche, je vais vous dire une chose,
oui.
C'est surtout tous vos futurs confrères... Parce que pour l'histoire de Jean Sarkozy, moi, j'avais été marqué. Au départ, c'était le petit garçon à papa qui essayait de montrer à son père qu'il était capable d'avoir des hautes responsabilités, etc. C'était quelqu'un qui n'avait pas de vision pour le poste qu'il allait devoir occuper. Et puis, soudainement, il est apparu sur Antenne 2. Et le lendemain,
sur France 2,
oui,
ça
voyez.
A changé depuis.
Oui, c'est l'âge.
Ah, ben voilà.
Sur France 2. Et puis alors, soudainement, les médias se sont aperçus que c'était un garçon promu à un bel avenir, parce qu'il avait su tirer le son de tout cela, qu'il avait été dans sa prestation remarquable. Et le Jean Sarkozy d'hier, qui était bon à jeter au Villeni, le lendemain, on lui promettait le plus bel avenir. Je veux dire, les choses ne se font pas comme cela. Et là, on voit aussi l'exagération qu'ont les médias, parce que je crois qu'il faudrait quand même revenir à plus juste mesure. Jean Sarkozy, il mène sa vie. C'est pas facile. Ça doit pas être facile pour lui tous les jours, de, contrairement à ce que l'on dit, de s'appeler Jean Sarkozy, vous savez. Parce que quand on a un nom comme cela, il faut se faire un prénom, et c'est pas facile de se faire un prénom. Il se fera un prénom, pourquoi ? Ben, pas parce qu'il s'appelle Jean Sarkozy, parce que ce type, il est bon. Et il peut très bien, comme le disait tout à l'heure Arnaud, parce que pour l'instant, il a d'autres priorités, être bon dans ce qu'il fait en politique. Bon, il a peut-être un peu moins bon dans le suivi de ses études, entre parenthèses. Ça montre qu'à l'UMP,
il n'est pas pistonné.
Ah non, mais... je ne disais pas ça.
Ça montre que papa, il n'a pas téléphoné à Valérie Pécresse pour lui dire mon petit, il faut qu'il ait son master 1 ou son master 2. Voilà, ça montre qu'à l'UMP, il y a encore la place au mérite.
Non, mais c'est la moindre des choses. Les études sont tellement difficiles à réussir.
Ah non,
de
non, non.
Que...
C'est pas la moindre des choses. Parce que, dire, quand on s'appelle Jean Sarkozy, qu'on passe un oral,
qu'on passe un oral.
Je pense que l'enseignant, avant de planter Jean Sarkozy, doit réfléchir à deux fois. Quand même, hein. Mais en tout cas, preuve que, malheureusement, pour Jean Sarkozy, je crois qu'il est en licence. Bon, voilà.
Deuxième année de licence.
Toujours.
Toujours.
Toujours, écoutez, en tout cas, on lui souhaite bonne chance. Mais c'est vrai qu'il a une vie familiale, vous savez, il a eu un petit.
Oui, il a
eu. Il est marié, il a une vie politique. Vous savez, quand vous avez une vie politique comme lui, il est président de groupe, hein, il est président du groupe majoritaire au Conseil général des Hauts-de-Seine. Je sais qu'il fait du terrain, parce que j'ai des amis qui habitent sur Neuilly et qui le voient régulièrement dans la rue en train de tracter et autres. Donc ça ne va pas être facile, effectivement, de continuer ses études. On lui souhaite en tout cas.
Mais faire du terrain à Neuilly pour un militant UMP, excusez-moi, c'est un peu facile. Quand
pourquoi
même.
Vous considérez que M. Vézinhé n'est pas légitime parce qu'il est prêt.
Ah non, je ne dis pas
il
ça.
Il est conseiller général de la Payade qui vote massivement à gauche.
Non, mais si, Neuilly est ancré à droite.
Si vous attaquez. Non, mais attendez, en droite, comme la Payade est ancrée à gauche, je ne considère pas que M. Vézinhé est illégitime.
Ah non,
pourtant, je suis là-bas, je ne suis pas là pour le défendre.
Je ne suis pas en train de dire ça. Non,
vous êtes en train de dire qu'il est illégitime.
Il n'est pas illégitime, mais il est plus simple, je pense.
Je vais polémiquer, allez-y.
Oui, mais on va y aller, vous inquiétez pas, ça arrive.
Il est plus simple pour Jean Sarkozy de faire de la politique dans cette région que Olivier Besancenot, qui est quand même.
Bah, il distribue le courrier, lui.
C'est en pas plus.
Mal. On va pas demander plus.
Il distribue les tracts UMP, vous vous rendez compte, en plus de l'humiliation.
Je suis pas sûr, parce qu'on voit beaucoup à la télé, alors je suis pas persuadé qu'il travaille beaucoup, quand même, ce monsieur Besancenot.
Non, mais ça, bon, il faut. C'est vrai que c'est plus facile de se faire élire s'appelant Jean Sarkozy à Neuilly qu'au petit bar. Hein? Voilà. Jean Sarkozy, on lui propose de se présenter sur le 7e canton. Ça sera difficile pour lui. Hein? À Neuilly, c'est plus facile. Mais il n'empêche que, d'après les articles que j'ai lus concernant Neuilly, c'est quelqu'un qui est apprécié parce qu'il bosse.
Là, il bosse.
Donc Jean Sarkozy, un jeune qui réussit en politique, pas forcément par rapport à son prénom, c'est ça que vous diriez ? Enfin, son nom, excusez-moi.
Bah écoutez, non, mais son nom, évidemment, ça peut toujours servir. Vous savez, les enfants d'un tel et d'un tel, vous savez, l'héritage familial, vous avez dans les acteurs, les sportifs aussi de haut niveau. Ouais, le fils Noah, c'est un grand basketteur. Je pense que papa a dû payer de bonnes études à l'université aux États-Unis quand même, si son père n'avait pas été là. Donc je veux dire, il faut en mettre en cause maintenant les parents, la filiation, papa, maman et compagnie. Vous savez, nous on est en République, en tout cas nous à droite, on considère que la République est là pour aider tout le monde. Dans l'école, l'université est là pour aider tout le monde, qu'on soit né ou mal né, en tout cas peu importe, on est là en tout cas pour essayer de réussir. Et nous, ce qu'on souhaite à l'UMP, c'est que des enfants issus, comme on dit, de familles défavorisées puissent aussi bien réussir que les familles dites favorisées.
Très bien. Eh bien, merci, messieurs. Avant de continuer le débat, nous allons passer à une autre pause musicale. Manu Chao.
Avec ça vient, j'attends, sinon moi je chante.
Thank you.
peut-être rentrer chez nous. Bah alors faites-moi plaisir. Sur le canal du Midi, il y avait un petit gars. C'est sûr qu'il n'était pas d'ici, mais que là, il était de Paris. Seulement Ménilmontant, le canal Saint-Martin, ça faisait vraiment longtemps qu'il en était trop loin. Il avait un bateau tout droit planté dans l'eau, une vieille carcasse pourrie qui était son paradis. Il répétait sans cesse, je retrouverai Barbès. Il en hurlait la nuit, attends-moi Paris. Bonjour à son pote Robert, ils ont fait le plein de gasoil. Ils ont joué la file de lait et ils ont mis les voiles. Sur le canal du Midi, ils étaient tout contents. Putain que c'est beau la vie, quand on remonte sur Paris. Ils voyaient déjà la Seine et le pont de Bercy. Ils en avaient de la peine, bientôt ça sera fini. Premier virage, et il y eut comme un drôle de bruit. Une voile au virage, le bateau fut vite rempli. Adieu Ménilmontant, le canal Saint-Martin. Adieu Pigalle et l'Opéra. Adieu Barbès et Gambetta. Adieu les bulles et Goncourt. Adieu la porte de Clignancourt. Adieu Pigalle et l'Opéra. Et je suis plus que le cœur qui est. On piquera une patinette et on aura l'air con, comme tous les mecs en patinette.
Donc voilà, c'était Manu Chao pour une petite pause musicale dans ce débat. Nous allons continuer avec la deuxième question. D'après vous, toujours en parlant de ces générations en politique et des changements de génération, dans le cadre d'un renouvellement du monde politique, comment faire pour concilier l'expérience, à entendre là, la sagesse et la modernité ? Monsieur Julien ?
Bah, écoutez, je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas une question d'âge, hein, c'est une question de vécu. Vous savez, il y a des personnes qui ont 25 ans et qui ont connu des bonheurs ou des malheurs dans leur vie qui font qu'ils ont acquis une maturité plus importante que quelqu'un qui peut avoir 40 ans ou 50 ans et qui n'a pas vécu grand-chose. Donc, en politique, je crois qu'il faut avoir un esprit critique. Il faut avoir un engagement, donc des convictions. Nous, avec Christian Dumont, nous sommes issus des rangs du RPR. Donc, nous avons des valeurs gaullistes et des valeurs qui sont certaines idées, comme on dit, hein, pour caricaturer de la France. Et aussi une volonté d'être présent sur le terrain. C'est pour ça que Christian prenait à dessein des quartiers populaires comme le Petit Bar, où nous avons fait de beaux combats là-bas, et où nous, on n'a pas peur d'aller sur ces quartiers-là, qui ne sont pas acquis à la droite, mais on considère qu'on est là pour aider ces populations et ces gens, parce que ces gens-là ont besoin de l'action politique. Et quand on voit le régime pseudo-socialiste de Montpellier, qui finalement a passé son temps à servir des quartiers des populations de notre ville. Nous, ce qu'on souhaite, c'est les libérer. Et donc faire la révolution.
Justement, en parlant de révolution, vous vous rattachez aux valeurs du gaullisme. Mais entre le gaullisme et les jeunes, il y a quand même eu mai 68. Je veux dire,
oui, bah justement, vraiment... au mois de mai, les jeunes étaient dans la rue. Et un mois plus tard, les électeurs ont voté massivement pour les députés de droite, en l'occurrence. Et la chambre était encore... bleu horizon. Donc en tout cas, en plus, il ne faut pas résumer les jeunes, quelques jeunes. Et ensuite, le résultat a fait que le mois d'après, il y a eu les élections. Il y a eu 1 million de Français qui sont descendus dans la rue pour soutenir le général de Gaulle. Et ensuite, il y a eu les élections législatives. Et je tiens à vous rappeler que la gauche a pris une branlée monumentale.
Oui, par la sécurité, encore une fois.
La sécurité, je ne crois pas qu'à l'époque, la sécurité était remise en cause.
Les émeutes de mai 68, quand même, c'est normal que ça fasse peur. C'est normal
donc justement.
Puis après, il y a eu le référendum pour le général de Gaulle qui.
C'est pas pour le général de Gaulle.
Non,
mais attendez. Non, attendez, on n'était pas né à l'époque. faut pas dire des bêtises. C'était un référendum pour réformer justement les collectivités territoriales et le Sénat. Et le général de Gaulle avait dit, si je le perds, je m'en vais. Voilà, c'est tout. Lui, il a le courage politique. D'autres hommes politiques n'ont pas eu ce courage. Il n'est pas parti parce qu'il était battu à des élections. Il est parti parce qu'il s'est engagé sur sa personne.
Monsieur Dumont ? Donc, d'après vous, comment faire pour concilier sagesse et modernité ?
Il n'y a pas à concilier la sagesse et la modernité. La sagesse, elle va de pair avec la modernité. Être moderne, qu'est-ce que c'est ? Être sage, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je ne sais pas si un sage est quelqu'un qui est un réactionnaire ou un conservateur.
Je n'ai pas dit ça.
Non, mais j'extrapole.
Oui.
J'extrapole. Continue. Donc, je veux dire, pour moi, c'est pas à concilier. La modernité, c'est quoi ? La modernité, c'est d'avoir des idées nouvelles, c'est avoir de la passion, c'est avoir, c'est d'être en mouvement, c'est de vivre avec son temps, c'est d'avoir un temps d'avance. Bon, alors on peut très bien avoir une certaine expérience de la vie, et comme dit tout à fait Arnaud, l'expérience de la vie, on peut après 50 ans, 30 ans d'exercice professionnel, avoir une expérience de la vie, comme on peut avoir déjà une expérience de la vie très solide à 25 ans parce que on a eu une vie difficile, une vie de galère, et que donc déjà on sait ce que c'est la vie, la vraie vie, pas celle des magazines People et celle des feuilletons télévisés. Donc la modernité, la sagesse, il n'y a pas à chercher à les concilier. À mon avis, elles vont de pair. Elles vont de pair. Après, c'est qu'une question d'âge, et une question de, si vous voulez, de mentalité. Il y a des jeunes qui sont vieux avant l'âge, et il y a des vieux qui sont jeunes. On ne se rend pas compte que des fois, par exemple, de l'apport de personnes qui sont expérimentées et qui font des choses que des jeunes ne feraient pas. Il suffit d'ouvrir nos quotidiens tous les jours. Vous voyez des types qui ont 60 ans, qui repartent dans une deuxième vie ou dans une troisième vie, qui se lancent dans des affaires, se lancent même dans des exploits, sportifs, par exemple. Vous savez, on dit par exemple que monter l'Everest à partir de 50 ans, eh bien, c'est plus risqué parce qu'on peut rencontrer des problèmes avec la haute altitude. Il y a des tas d'alpinistes qui ont dépassé l'âge de 50 ans, jusqu'à 55 ans, et qui font l'Everest. Donc, c'est une question de volonté. Quand on a la volonté, eh bien, c'est qu'on est jeune. Et quand on est jeune, encore d'esprit, eh bien, on peut faire beaucoup de choses et on peut être très créatif.
Bien. Monsieur Fage ?
Je pense que pour allier modernité et expérience, il faudrait, par exemple, renforcer les liens entre les aînés et les jeunes. Cela permettrait aux aînés de faire partager leur expérience aux jeunes. Et les jeunes apprendraient énormément de tout ce que les aînés ont déjà fait.
Vous lancez un petit message personnel, là ?
Ah non, pas du tout. Je ne vois pas du tout où vous voulez en venir. Non, mais je pense que ça serait bien de faire ça. Et ensuite, comme M. Arnaud et M. Dumont l'ont dit, c'est vrai que après, il y a la barrière de... Enfin, ce n'est pas une barrière de l'âge, mais il est difficile de dire à partir de quel âge on a une expérience. Parce que tout le monde a un parcours très différent. Et on retrouve des personnes à 50 ans qui ont énormément d'expérience et comme à 25 ans qui ont énormément d'expérience aussi.
Bien. Et d'après vous, la jeunesse, ça peut pas être 50-50. La jeunesse, elle est plus moderne ou elle est plus expérimentée ?
50-50, c'est pas possible. Après, je pense que la jeunesse est plus du côté moderne. Quand vous êtes jeune, quand vous commencez une vie, vous avez peu d'expérience encore. C'est au fur et à mesure que vous allez grandir, que vous allez mûrir, que vous allez acquérir toute cette expérience qui va vous servir après dans votre vie. Comme l'a dit monsieur Julien au départ, c'est avec les erreurs qu'on apprend. C'est en faisant des erreurs, en comprenant ces erreurs qu'on apprend et qu'on avance.
Monsieur Julien, peut-être sur ce 50-50, la jeunesse plus moderne, plus expérimentée, de nos jours, vous avez l'impression,
Ah ben je pense que les jeunes maintenant sont plus aguerris, hein, dans le sens où à 20 ans, aujourd'hui, on connaît plus de choses qu'il y a 15-20 ans, à la même période de notre vie. Donc, est-ce que c'est les moyens de communication? Est-ce que c'est la société qui évolue vite, hein? C'est vrai que maintenant, quelqu'un qui a 20 ans a peut-être une maturité supérieure il y a une vingtaine d'années, oui, c'est vrai.
D'accord. Tout en restant aussi moderne ou
Vous savez, tout à l'heure, on disait, il y a des vieux cons et des jeunes cons. Donc, ça ne veut rien dire. C'est pas... La modernité, qu'est-ce que c'est la modernité? Vous savez, il n'y a pas plus qu'éphémère que la modernité.
Pourtant, il ne semble pas. Il y a toujours des projets nouveaux. Au contraire, la modernité compte être... elle semble être dans la continuité des choses. Non, on devient tous les jours de plus en plus moderne.
Ce qui est moderne aujourd'hui n'était pas hier, elle ne sera pas demain. Donc, modernité, on peut l'être... est-ce qu'on peut être tout le temps moderne? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, je crois... Vous savez, c'est une question d'état d'esprit. Hein. Il y a des personnes qui se remettent souvent en cause et qui en effet avancent et qui sont modernes. D'autres qui restent enfermés dans leur carcan intellectuel et qui n'avancent pas et qui ne sont pas du tout modernes. Donc c'est une question de vécu, une question de volonté, une question d'ouverture d'esprit, je crois aussi, finalement.
Monsieur Dumont, peut-être la modernité, d'après vous, même point de vue ou de légères nuances?
Non, moi je m'appelle pas Marc-Henri Lévy. Hein,
je n'ai pas dit ça.
Je vais pas philosopher sur la modernité. Moi, je suis un avocat de base. Donc bon, maintenant je veux dire une chose. Est-ce qu'un jeune aujourd'hui de 20 ans est plus mûr qu'un jeune de 20 ans il y a 30 ans? J'en sais rien. La seule chose que je puis dire, c'est que un jeune d'aujourd'hui, de par l'évolution des sciences et de la technologie, c'est vrai, on aurait l'impression qu'un jeune d'aujourd'hui a plus de bagages pour affronter la concurrence d'aujourd'hui qui n'était pas celle d'hier. Ça, c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a 30 ans, la concurrence était moins difficile. Il y a 30 ans, les choses pour les jeunes n'étaient pas faciles non plus, mais l'évolution technologique a fait que aujourd'hui, la concurrence est très, 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 très difficile. Maintenant, il y a un problème aussi d'état d'esprit. Est-ce que le jeune d'aujourd'hui a un meilleur état d'esprit que celui d'il y a 30 ans? Moi, là où je suis stupéfait un petit peu, dans le cadre des enquêtes qui sont faites à travers les jeunes, et quand on pose des questions aux jeunes, quel est votre avenir? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Souvent, parce qu'on est dans l'ère du temps, le jeune d'aujourd'hui privilégie le loisir, la sécurité de l'emploi, donc la fonction publique. Et donc, on peut être surpris parce qu'on se dit tout ça, c'est aux antipodes des professions libérales ou des professions qui créent, créatrices. Il y a chez les jeunes aujourd'hui un besoin de sécurité, un besoin d'avoir toujours un peu plus, un besoin de loisirs qui était différent de la mentalité d'il y a 30 ans. Et je crains que les jeunes Français d'aujourd'hui, par rapport aux autres jeunes européens, et en particulier des pays émergents et des pays, que je connais bien, des pays, des anciens pays de l'Est, d'Europe centrale, qui ont connu, eux, des jeunesses extrêmement difficiles, comme le disait Arnaud, qui déjà ont une expérience de la vie à travers le communisme, qui est quelque chose d'horrible. Il faut que les jeunes quand même comprennent aujourd'hui quand même que le communisme a existé dans le monde et que le communisme a entravé des millions et des millions de libertés. Eh bien, ces jeunes-là ont plus faim. Et ces jeunes-là n'ont pas la même mentalité que les jeunes occidentaux qui aspirent à du loisir, à du jeu et à de la sécurité. Et donc, c'est un phénomène qui, à mon avis, est extrêmement intéressant. Et les jeunes d'il y a 30 ans, donc à travers ces jeunes de 30 ans, je pense un peu à moi, puisque
c'est ce que j'allais vous dire.
Puisque j'ai 55 ans, eh bien, on avait faim. Et vous savez, pour réussir, tout à l'heure je parlais des questions de volonté. Alors il y a le mérite, mais il y a la volonté. Si vous avez, l'un ne va pas sans l'autre. Il faut avoir cette volonté. Moi, je préfère avoir la volonté de celui qui veut réussir, de celui qui veut travailler, plutôt que de celui qui cherche la sécurité et qui cherche à finir sa semaine le jeudi soir pour profiter du sacro-saint week-end.
Donc, Monsieur Fall, vous êtes d'accord avec le portrait des jeunes que vient de faire Monsieur Dumont ? Vous reconnaissez dans ce qu'il a dit ?
Dire que les jeunes aujourd'hui ont évolué par rapport à 20 ans, ils sont différents des jeunes d'il y a 20 ans, je suis d'accord parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a par exemple les moyens technologiques qui n'existaient pas il y a 20 ans. Après, dire que les jeunes aujourd'hui n'ont pas envie, certes...
Pas ceux de l'UMP.
Ah, parce qu'aujourd'hui quand même, je connais pas mal de jeunes qui ont envie, C'est pour ça que j'étais pas d'accord quand vous disiez qu'aujourd'hui les jeunes n'ont pas envie, qu'ils n'ont pas la volonté. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont la volonté et qui ont envie.
Voilà. Vous avez faim, vous ? Monsieur Dumont disait que certains jeunes avaient faim. Est-ce que vous...
Avoir faim, c'est un grand mot, mais j'ai la volonté.
Une petite faim, alors.
Pour le moment.
Mais hein. Il faut avoir faim, ce n'est pas... moi, je regrette, mais ce n'est pas malhonnête de dire ou de reconnaître, ce n'est pas en tout cas tenir la langue de bois. Oui, j'ai faim. Oui, je veux réussir. Oui, je veux travailler. Je veux dire, ça, ce sont des conceptions qui sont proches, d'ailleurs proches de l'UMP, parti que je défends. Et on n'a pas... Moi, je vous le dis très franchement, on n'a pas honte d'un discours comme ça qui serait tenu par les jeunes. On n'a pas à avoir honte de dire « Oui, moi, j'ai faim ».
Mais à 50 ans, vous avez toujours faim, vous ?
Ah, moi, j'ai toujours faim.
Toujours ?
Surtout qu'il est bientôt 20h, hein, donc.
Et vous, monsieur Julien, alors ?
Moi, j'ai faim.
Non, mais parce qu'il est 20h ou...
Vous savez, dans la vie, je pense que Christian a raison, il faut avoir faim. Si vous voulez quelque chose, il faut avoir plus envie
que les autres.
Sinon, vous ne l'avez pas. Moi, j'ai 37 ans, je considère encore un peu jeune. Hein. Si en politique, je n'avais pas faim, je reste à la porte. Vous savez, en politique, il faut avoir faim plus que les autres pour pouvoir y réussir. Ce n'est pas être arriviste ou quoi que ce soit, hein, parce que bon, moi, j'ai été élu d'abord par les militants, donc c'est pas ça. Mais il faut, je pense que dans un combat, il faut avoir plus faim que l'autre. Hein. Et souvent, en politique, les élus qui sont nos aînés, hein, qui ont plus de 65, 70 ans, sont repus. Voilà. Ils sont repus de tout ce qu'ils ont eu et... je crois que c'est bien un peu de les titiller, de les bousculer. En tout cas, nous, à l'UMP, il y a des élections l'année prochaine, des élections cantonales. Et je pouvais annoncer à votre antenne qu'il y aura beaucoup de jeunes de l'UMP qui partiront au combat contre des caciques socialistes qui sont bien souvent conseillers généraux depuis 30 ans et qu'il faut maintenant passer la main sans autre chose et dynamiser un peu notre département qui en a bien besoin.
Et donc, dans le cadre de ce débat, bon, nous avons Monsieur Dumont, nous avons Monsieur Fage, vous vous situez entre les deux. Donc je reprends cette question du 50-50, plus expérimenté ou plus moderne ?
Je pense que c'est, il faut allier un peu de tout. Hein. Je pense que la modernité, oui, il faut être moderne pour être inventif. Et ensuite, l'expérience vous permet d'avoir un peu de recul, un peu de sérénité, dont on a besoin cruellement en politique. Hein. Vous savez, la politique, c'est une affaire de passion. Hein. C'est une guerre moderne qui ne dit pas son mot. Hein. C'est un combat. Moi, j'ai toujours considéré en politique, d'ailleurs, qu'il y avait deux temps. Le temps du combat politique, comme en ce moment pour les élections régionales, où nous, on considère à l'UMP, à juste titre, qu'il faut un peu se débarrasser un petit peu des caciques locaux. Hein. Vous savez, la moyenne d'âge de la liste de Georges Frêche, ça approche plus des 65 ans que les 40 ans. Donc ça serait bien un peu de changer, de dépoussiérer un peu ça. Et puis, après, il y a le temps du combat et le temps de l'intérêt général. Voilà. Après l'élection, il faut tendre la main à tout le monde et travailler dans l'intérêt général. Vous savez, la différence entre les anciens et les modernes, j'appelle ça, c'est qu'effectivement, les anciens, nos aînés, ont une tendance à toujours faire la guerre, même après le combat politique. Nous, la jeune génération, qu'on soit de gauche ou de droite, on veut travailler pour l'intérêt général et on veut travailler pour l'intérêt de notre région.
D'accord.
Vous voyez donc plutôt encore jeune pas encore.
Ah bah jeune, oui, je pense que Christian, il a 55 ans, il est toujours jeune. C'est pas une question d'âge, hein, c'est une question d'état d'esprit. Être jeune, c'est être combatif, inventif. Et vous savez, en politique, ce qui est le plus important, c'est de défendre ses convictions, surtout sur des territoires comme les nôtres, qui sont des territoires difficiles et où il faut faire œuvre de combat et être vraiment combatif. Ouais.
Donc les jeunes de l'UMP, c'est tout le parti, en fait.
Les gens de l'UMP, oui, nous, la différence des socialistes, les socialistes, ils ont inventé le MJS, qui est soi-disant à part, mais finalement téléguidé par le parti. Nous, l'UMP, on a les jeunes populaires qui sont intégrés au sein d'une formation politique. Et moi, ce que je souhaite en tant que plus jeune président de Fédération de France, c'est qu'effectivement, dès que je peux, je donne des responsabilités un maximum aux jeunes de ma formation politique, parce que c'est l'avenir de l'UMP, mais aussi, c'est aussi l'avenir de notre pays.
Très bien. Eh bien, je vous propose une nouvelle pause musicale.
J'entends passer le temps. Le temps muet, aveugle et sourd. Un roulement sur un tambour. Une fontaine sur la place. Les aboiements d'un chien perdu. Le temps passe et ne revient plus. Et ne revient plus. J'entends, j'entends passer. Le temps, comme il va vite et comme il court, déjà le soleil tourne court, et ma fenêtre sur l'impasse s'assombrit du soir revenu, le temps passe et ne revient plus, et ne revient plus. J'entends passer le temps dans la prison, dans le couvent, partout sur la rose des vents. J'entends qu'au loin c'est marée basse, et bientôt j'entendrai le flou. Le temps passe et ne revient plus. Et ne revient plus. J'entends passer le temps, mon pas léger, mon cœur battant. C'était hier, adieu printemps, et vole un éclat cette glace. Où je crois voir un inconnu, le temps passe et ne revient plus. Et ne revient plus. Le temps muet, aveugle et sourd. Un roulement sur un tambour. Une fontaine sur la place.
Bien, divergences et divergentes, avant de finir cette émission, Jérémy a une question d'actualité à poser à nos invités. Je t'en prie.
Oui, donc la loi LOPPSI 2 a été votée la semaine dernière. Qu'est-ce que vous en pensez de cette loi? Elle a été assez critiquée.
Bah écoutez, nous, on a été élus, que ce soit Nicolas Sarkozy ou la majorité parlementaire, sur une problématique, entre autres hein, d'ailleurs, hein, sur la sécurité. Donc vous voyez un peu les problèmes qu'il y a dans certains quartiers, qui continuent encore à perdurer. Je crois que la société souhaite un renforcement. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas, nous, ce qu'on souhaite à l'UMP, c'est de ne pas renier sur les libertés individuelles. Donc ça, on est quand même très vigilant sur le sujet. Après,
on accuse un peu l'UMP de jouer sur la psychose avant les régionales.
De toute façon, je veux dire, ça serait une erreur de ne pas s'occuper de la sécurité. Vous avez vu Jospin, cela n'a pas porté bonheur. Je crois que sur la sécurité, il faut aller un peu plus loin. Après, je vous dis, la frontière, c'est quand même les libertés individuelles. Vous avez vu aux États-Unis, à l'époque de Bush, d'ailleurs, je tiens à noter malheureusement qu'Obama ne revient pas en arrière, les libertés individuelles ont quand même sacrément régressé. Et nous, on ne le souhaite pas en France, en tout cas, de régresser sur les libertés individuelles. Vous savez, en France, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Je veux dire, moi, j'aime beaucoup voyager. C'est vrai qu'en France, vous pouvez aller sur une place et critiquer le président de la République, il ne vous aura pas en prison. Alors que dans certains pays, même que pseudo-démocratique, vous irez en prison, vous serez emmerdé par les forces de police. Donc, non, sur la loi de sécurité intérieure, en l'occurrence, dont vous faites référence, bon, non, je vous avais d'ailleurs en plus, on est en train de faire des avancées sur la garde à vue. Effectivement, il y a trop de garde à vue dans notre pays, de manière un peu arbitraire. Et donc, il faut revoir ça pour renforcer le droit des individus. Alors, Christian Dumont pourra nous en dire quelques mots, lui qui est avocat.
Très rapidement, Monsieur Dumont, justement, car il nous reste peu de temps, je vous en prie.
Sur le problème de la garde à vue ou sur le
l'obsidé.
L'obsidé, oui.
L'obsidé et la garde à vue si on a encore un peu de temps.
Oui, non, mais moi, en ce qui concerne cette loi, je suis tout à fait d'accord. Et je ne vais pas rajouter, je ne vais pas être surabondant à ce que vient de dire Arnaud Julien. Donc, comme je sais qu'en plus, il vous reste peu de temps, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit.
Un peu plus, quand même.
Non, mais je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Le seul problème, c'est que, vous savez, on fait toujours un mauvais procès à l'UMP. Quand, à la veille d'une élection, on lui dit « ça y est, l'UMP brandit le message sécuritaire ». Soit la sécurité est un problème qui est réglé en France et on n'en parle plus, soit c'est un problème qui n'est pas encore réglé. Il suffit d'ouvrir nos quotidiens, il suffit de regarder la télévision. On voit qu'en France, actuellement, il y a toujours un problème de sécurité, qui est d'ailleurs un problème multiple. On voit les débordements qui se font actuellement de sécurité avec ces bandes de supporters à travers le sport. On le voit à travers les banlieues. On le voit dans de très nombreux domaines. Donc l'insécurité n'a pas été éradiquée. Et c'est quand même, faites des sondages, la priorité des Français.
Bien, très bien.
Je peux vous en faire encore pendant 20 minutes.
J'avais compris.
On a plus trop le temps.
Monsieur Dumont, Julien et Fage, merci d'avoir participé à l'émission. Jérémy, merci de m'avoir assisté. Merci aussi à la technique. Divergences et divergentes, au revoir. C'est dans le pré à manger d'une fois.